1985. L'économie du monde soviétique est à bout de souffle. Le bloc de l'Est commence à se fissurer. En URSS, Mikhail Gorbatchev devient secrétaire général du comité central. Autrement dit, chef de l'État. Gorbatchev est parfaitement au courant du déclin de son pays. Dès son arrivée au pouvoir, il lance la Perestroïka et la Glasnost, une série de réformes qui libéralisent l'Union soviétique. Le bloc de l'Est s'ouvre pour ne pas s'effondrer. Gorbatchev reprend également les relations diplomatiques avec les États-Unis et leurs alliés. Tous ceux à qui Carlos s'attaque depuis 15 ans. Pour montrer patte blanche, l'URSS signifie au chacal qu'il n'est plus le bienvenu entre ses frontières. Le héros d'hier est un caillou dans la chaussure des communistes. Le ressortissant d'un monde en voie de disparition. Et il doit disparaître avec lui.
Le 16 septembre 1985, Carlos s'installe à Damas, en Syrie, avec Magdalena Kopp. Sa compagne allemande est libre depuis le mois de mai, et le couple se marie. Le 17 août 1986, une fille naît de leur union. La vie est belle à Damas. Carlos s'y sent chez lui. Le régime syrien pour qui il organise des attentats lui ouvre les bras. Il fréquente les hautes sphères et conseille à la famille Al-Assad qui accapare le pouvoir depuis 1971. Carlos n'a pas l'intention de se ranger. Il a toujours en tête ses projets de révolution mondiale. Mais la révolution coûte cher et le régime syrien ne semble pas prêt à la financer. Le chacal n'a plus un rond. Il accepte alors de rencontrer François Genoux, un banquier suisse qui finance la résistance arabe.
François Genoux partage avec les terroristes palestiniens la haine du sionisme, ou peut-être simplement des juifs. Car avant d'apporter son soutien au Front populaire de libération de la Palestine, c'est le régime national-socialiste qui a obtenu les faveurs du banquier, au point d'être l'exécuteur testamentaire d'Hitler et de Goebbels. Genoux voue depuis longtemps une admiration sans faille à Carlos. Il est prêt non seulement à renflouer ses finances, mais également à partager la mine de renseignements qu'il glane auprès de son réseau d'anciens nazis réemployés dans les services secrets des deux républiques allemandes. Carlos a besoin de ces renseignements pour préparer ses attentats. Il décide de s'asseoir sur ses idéaux communistes et se lie avec le banquier fasciste.
Carlos est agréablement surpris par François Genoux. Il découvre un homme très intéressant, raffiné, loin du monstre qu'il s'était imaginé. Genoux a beau être un nazi, Carlos respecte les hommes qui ont des convictions et du goût. Ça le change de ses camarades de lutte, toujours sales et mal habillés. Les deux hommes deviennent très amis. Grâce au réseau du banquier, le chacal organise des extorsions de fonds. Pendant l'été 90 notamment, Genoux loue une maison en Belgique pour le fils d'un Saoudien richissime que Carlos et son organisation prévoient de prendre en otage. La seule menace convainc le milliardaire de payer la rançon. Le Vénézuélien et le Suisse se partagent 7 millions de dollars.
août 1990. L'Irak envahit le Koweït. À la tête des forces irakiennes, Saddam Hussein veut annexer l'Émirat et s'approprier ses réserves de pétrole. Les États-Unis de George Bush Senior réagissent aussitôt pour protéger leurs intérêts dans la région. Bush réunit autour de lui une coalition internationale qui comprend les pays frontaliers de l'Irak. La Syrie y participe. En échange de sa coopération, le président américain promet au régime des Al-Assad de ne plus figurer sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Les Syriens acceptent et entreprennent de faire le ménage.
Depuis 1991, les autorités syriennes font savoir au Chacal qu'il doit changer d'adresse. Le Vénézuélien plie bagage avec sa femme et sa fille. Direction Amman, la capitale jordanienne. Mais Magdalena en a marre de vivre cette vie de renégat. La jeune maman aspire au repos. Elle le fait savoir à Carlos. Le Chacal s'arrange pour l'envoyer avec sa fille au Venezuela sous la protection de sa famille qui est encore très influente. Mais pour s'y rendre, il leur faut des papiers en règle. Carlos fait donc le voyage jusqu'à Beyrouth et s'introduit dans l'ambassade du Venezuela avec 8 hommes armés jusqu'aux dents. Il force les employés de la représentation diplomatique à lui fournir un passeport en règle pour sa fille et à régulariser son mariage avec Magdalena. Ainsi, elles pourront toutes deux se mettre à l'abri dans son pays natal. Le Chacal, lui, compte rester en Jordanie. Un retour au bercail signerait sa capitulation. Et un révolutionnaire ne capitule jamais.
Le 26 décembre 1991. L'URSS acte sa dissolution en reconnaissant officiellement l'indépendance des républiques qui la composent. C'est la fin du bloc de l'Est. Le monde change de visage. L'Union soviétique entraîne dans sa chute la plupart des régimes communistes. Tournant le regard vers l'Occident, les anciens refuges de Carlos lui ferment leurs portes, un à un. Si le Chacal reste libre de ses mouvements, il semble vivre de plus en plus dans une prison à ciel ouvert.
Carlos a du mal à avaler la pilule. Il ne doit sa liberté qu'à sa renommée qui inspire encore crainte ou respect. Mais il sent le vent tourner. En juin 1992, il est encore en Jordanie. Magdalena et leur fille sont partis pour le Venezuela. Carlos traîne son vague à l'âme dans la villa qu'il occupe à Amman. Et il va trouver le remède idéal contre sa mélancolie. Lana, une jeune femme de 26 ans qui tombe sous le charme de cet homme légendaire de 45 ans. Pour Noël, Carlos offre un cadeau au goût amer à Magdalena. Depuis Amman, il l'appelle pour lui annoncer qu'il ne la rejoindra pas à l'occasion des fêtes. Il s'est marié à Lana. Magdalena n'a plus qu'à refaire sa vie dans un pays qui n'est pas le sien. Pour Carlos, la page est tournée.
Et pour la Jordanie aussi. Début 93, les autorités jordaniennes poussent Carlos à quitter le territoire. Mais le Chacal n'a plus nulle part où aller. L'époque dont il était le héros est en train de mourir, emportant avec lui le terrorisme international, d'inspiration marxiste et léniniste. Dorénavant, les attentats se commettent au nom de Dieu. Un pays s'est fait le paradis des fanatiques, le Soudan d'Omar el-Béchir. Depuis son coup d'État en 1989, le général el-Béchir impose la loi islamique à son peuple et ouvre les bras au terrorisme islamiste. On trouve dans les rues de la capitale des membres des Frères musulmans, du Hezbollah et même Oussama Ben Laden. La révolution de Carlos n'a pas grand-chose en commun avec les idéaux djihadistes. Mais le Chacal s'est converti à l'islam dans les années 70 et le Soudan est le seul pays à l'accepter sur son sol.
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. En août 1993, Carlos et Lana atterrissent à Khartoum, au Soudan. L'accueil que le Chacal reçoit des autorités n'a rien à voir avec celui qu'on lui réservait dans l'ancienne URSS ou dans les pays du Golfe Persique. Les Soudanais refusent notamment de lui délivrer un passeport officiel. il n'a pas plus de droits qu'un vulgaire touriste. De fait, Carlos ne se comporte pas autrement. Il flâne dans les rues de Khartoum, festoie dans les clubs, où la consommation d'alcool est permise, et drague sur la piste de danse, comme au bon vieux temps. Il ne prend pas la peine de se faire discret. Et se laisse même filmer lors d'une soirée de mariage qui a lieu dans une boîte de la capitale. Le chacal ressemble à n'importe quel retraité en vacances. Il est pourtant plus proche d'un condamné qui savoure son dernier repas. Car, à Washington et à Paris, son destin s'écrit sans lui.
En ce mois d'août 1993, l'administration de Bill Clinton inscrit le Soudan sur la liste noire des États soutenant le terrorisme. À la clé, une série de sanctions économiques et commerciales prévues pour étrangler le pays. La même année, une cassette vidéo tombe entre les mains de l'officier de la DST, Philippe Rondeau. Sur la VHS, on voit Carlos se trémousser dans un club de Khartoum, le sourire aux lèvres. L'arrestation du chacal est l'obsession de Rondeau depuis 1975. Il part immédiatement au Soudan pour faire des repérages. De son côté, le gouvernement soudanais démarche la diplomatie française pour nouer de nouvelles relations commerciales et contourner les sanctions américaines. Paris veut rétablir son influence dans une région largement sous la coupe des États-Unis. Les Français sont donc tout à fait prêts à apporter leur soutien au Soudan. Mais ils exigent une contrepartie. Que le régime d'Omar el-Béchir leur livre Carlos.
Au Soudan, Carlos est convaincu d'être à l'abri de la justice des pays occidentaux. Il est musulman, tout comme ses hôtes soudanais, et l'islam interdit de trahir un invité ou de le livrer à l'ennemi. Le chacal est un homme de principe. Il compte sur les autres pour qu'il le soit aussi. Insouciant, il continue de mener sa petite vie à Khartoum. Il essaie même de faire un enfant à l'ANA, sans y parvenir. Le Vénézuélien passe des examens pour découvrir la cause de son infertilité. On lui diagnostique un varicocèle, une dilatation des veines du cordon spermatique. Carlos décide de se faire opérer, pour l'ANA et pour sa dynastie. La date de l'opération est fixée au 13 juillet 1994.
Depuis qu'il sait que le chacal est au Soudan, Philippe Rondeau prépare nuit et jour son enlèvement. Il finit par avoir le feu vert du ministère de l'Intérieur et celui des Soudanais. L'opération aura lieu le 14 juillet 1994. Ce jour-là, un commando de la DST se rendra à Khartoum, au bord d'un jet Falcon du GLAM. Le groupe de liaison aérienne ministérielle. Carlos sera livré aux hommes de la DST directement à l'aéroport, à la faveur de la nuit, pour éviter toute tentative d'évasion. Rondeau trépigne d'impatience. Ça fait 20 ans qu'il attend ce moment.
Juillet 1994. Carlos se présente au service de chirurgie de l'hôpital Ibn Khaldoun pour l'embolisation de son varicocèle. L'intervention est une formalité. Il pourra retrouver l'ANA le soir même. Le Vénézuélien s'allonge sur la table d'opération et laisse le chirurgien lui rendre sa capacité à procréer. De retour dans sa chambre, il se repose en attendant que les effets de l'anesthésie se dissipent. En fin d'après-midi, un agent des services secrets soudanais lui rend une visite imprévue. Il informe que la France a retrouvé sa trace et qu'elle compte l'éliminer. Carlos prend ses menaces très au sérieux. Il est convaincu que tout le monde en a après lui. Il récupère ses affaires et suit l'agent.
14 juillet 1994. Les services secrets soudanais ont isolé Carlos dans une villa à l'est de Khartoum. Toute la journée, ils ont surveillé le terroriste. À présent, il est temps pour eux d'exécuter la mission qui leur a été confiée. Il pénètre dans la chambre au moment où le jour décline. Carlos s'attend à voir sa femme, qui doit venir le rejoindre avec les affaires qu'il n'a pas pu récupérer dans sa fuite. Les agents s'avancent vers lui, menottes à la main. Le chacal ne leur oppose aucune résistance. Il accepte son sort, la tête haute. Peut-être en a-t-il marre de jouer au fugitif. Peut-être a-t-il compris qu'il est en bout de course.
Carlos reçoit une dose de sédatif par intraveineuse et sombre dans un sommeil sans rêve. Il se réveille dans un avion, engoncé dans un sac de jute, ligoté par trois ceintures. Le visage recouvert de deux cagoules, impossible de voir ses ravisseurs. Il tente de communiquer avec eux, pour savoir si on l'emmène se faire torturer en Israël ou en Arabie Saoudite, pour savoir s'il a une chance de survivre. Mais personne ne parle. Seul résonne le bruit assourdissant des réacteurs.
15 août 1994. Le Falcon du GLAM atterrit sur la base 107 de l'armée de l'air à Vélizy-Villacoublay. Philippe Rondeau et ses hommes exultent. Ils viennent de mettre un terme à la cavale du terroriste le plus recherché de France. Le jour même de son arrivée sur le sol français, Carlos est incarcéré à la prison de la Santé. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, donne une conférence de presse pour annoncer la bonne nouvelle. Il prend toutefois soin d'omettre les détails de la capture du chacal qui bafoue toutes les règles du droit international.
Dans l'attente de son procès, Carlos est placé à l'isolement. Il lui faudra patienter 3 ans pour être entendu par la justice. Le 12 décembre 1997, il est jugé pour les meurtres de la rue Toulier, commis en 1975. Pour échapper à son arrestation, il avait abattu de sang-froid Michel Moukarbal et les agents de la DST, Jean Donatini et Raymond Douce. Durant l'audience, Carlos refuse de reconnaître les faits dont on l'accuse. Il reproche à la justice française de l'avoir condamné par avance et de lui faire un procès politique. Il peut compter sur le soutien du banquier François Genoux, qui finance ses avocats et prend publiquement sa défense. En vain. Le 24 décembre 1997, le chacal écope d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Depuis sa cellule, Carlos hurle à la vengeance. En novembre 1998, il se lance dans une grève de la faim en signe de protestation et demande à ses partisans d'assassiner un ressortissant américain ou un défenseur du sionisme pour chaque jour qu'il aura passé derrière les barreaux. Mais ses appels au meurtre tombent à l'eau. Depuis la maison centrale de Poissy, dans les Yvelines, Carlos prêche désormais dans le désert.
Le 15 décembre 2011, la justice française le condamne de nouveau à la perpétuité pour les attentats du train Paris-Toulouse, de la rue Marbeuf, de la gare de Marseille et du TGV Sud, perpétués entre 82 et 83. En mars 2017, il doit répondre de sa responsabilité dans l'attentat du drugstore Publicis, qui avait fait 2 morts et 34 blessés en 1974. Pour la troisième fois, Carlos écope d'une peine de réclusion à perpétuité. Dans aucun de ses procès, il ne se livrera à des aveux. Le chacal est toujours convaincu du bien fondé de sa lutte. Que ses victimes innocentes sont les dommages collatéraux d'une guerre qui n'est pas terminée. Et qu'une victoire est encore possible. Mais le monde est passé à autre chose. Illich Ramirez Sanchez, dit Carlos, dit le chacal, est le symbole d'une époque à jamais révolue. Il est le dernier représentant d'une espèce en voie d'extinction. Alors, à l'abri des barreaux de sa cellule, il entretient sa légende pour que l'histoire ne l'oublie pas.